Bonjour.
Je suis Maxime.
Et je suis Thomas. Et nous venons d'une contrée lointaine que les grands anciens appellent Bordeaux.
Et c'est là que se situe notre IUT. Nous sommes en licence de médiation par le jeu et gestion de ludothèque.
Tout à fait, la radio Studio Zef nous permet de profiter de son studio afin de partager avec vous pendant 3 émissions l'univers vaste et riche du jeu.
Et merci à eux, et dans cette première émission, nous tenterons de dresser un portrait du marché du jeu de société et d'aborder ce que l'on appelle le jeu de société dit moderne et son évolution fulgurante qu'il a vécue au cours de ces 10 dernières années.
Oui, ça c'est la première émission, et dans la deuxième émission, nous parlerons des lieux où l'on joue dans la société et du rôle qu'ont ces lieux et du succès qu'ils rencontrent.
Ouais, et d'ailleurs ça tombe bien, il nous semble qu'un bar à jeu va bientôt ouvrir à Blois.
Oui, tout à fait, la taverne du Nain, je crois.
Ouais, c'est ça.
Il existe également déjà plusieurs ludothèques dans cette ville.
Et ce sera d'ailleurs le sujet de notre troisième émission, puisque nous la consacrerons vraiment entièrement à la ludothèque, qui est un lieu où d'autres styles de jeux et qui sont tout aussi importants que le jeu de société se pratiquent.
Mais alors, ça m'a l'air très intéressant tout cela, et si on commençait par quelques chiffres pour lancer cette première émission ? Le marché du jeu de société n'est pas un marché facile à analyser quand il s'agit de parler de chiffres. D'abord, parce qu'on a surtout accès à un chiffre global qui englobe le marché du jeu et du jouet.
Ouais.
Sur les 10 dernières années, ce marché affiche une certaine régularité avec des progressions très sporadiques de l'ordre de 0,2 à 0,4%. Dernièrement, il a été en légère baisse, mais c'est surtout lié à la baisse des ventes de jouets.
Oui, car si on regarde de plus près, on peut voir que le marché du jeu de société se porte très bien. Et dans ce marché, on a évidemment les ventes de jeux classiques, ceux que l'on connaît tous et qui ont bercé notre enfance.
Cluedo, Monopoly.
Voilà, c'est ça. Et les chiffres parlent d'un jeu de société acheté par foyer et par an.
Ah, quand même.
Eh oui, et le jeu affiche son statut de produit anti-crise, de par, premièrement, son prix et ensuite de par sa convivialité.
Ouais, et des jeux comme le Cluedo et le Monopoly, justement, ils s'en vendent encore en France 500 000 exemplaires chaque année, c'est-à-dire un toutes les 38
c'est
secondes.
Énorme.
Ça donne le tournis.
Ouais. Et puis, on a également un nouveau marché qui ne cesse de croître, vu qu'il s'agit d'un nouveau genre de jeu de société, et qui a été appelé d'ailleurs le jeu de société moderne. C'est très compliqué d'avoir des chiffres fiables, mais on sait qu'il est en très très forte progression. Et d'ailleurs, la société d'édition française, Asmodée, a d'ailleurs damé le pion au géant Hasbro en termes de dynamisme.
Ah, quand même, ouais. Et Hasbro, c'est l'éditeur des fameux Cluedo et des Monopoly. Et Asmodée pèse maintenant 145 millions d'euros. Vous vous rendez compte, c'est colossal,
c'est
pour un marché dont on parle si peu, en fait. Et de plus, il se murmure ici ou là qu'un rachat pour un montant de 2 milliards d'euros serait possible.
2 milliards et... Par qui, du coup ?
Mais écoute, on entend parler de Hasbro, justement, ça serait très ironique.
Ouais, un peu, et tout ça paraît bien compliqué. Alors, pour vous aider à y voir un peu plus clair, nous sommes allés rencontrer des professionnels du jeu, comme Nicolas Soubiès, le gérant d'un barrage bordelais qui s'appelle l'Amus Café, qui nous rappelle d'abord l'importance du jeu pour nous en tant qu'être humain.
Il y a une vraie prise de conscience de l'importance du jeu dans notre société et dans nos sociétés, sachant que ça aussi, ça fait écho à une histoire très très lointaine. Le jeu a toujours existé dans les civilisations. Je pense qu'il continuera à jouer. Cette émission-là, on l'écoutera peut-être en 3030.
On l'espère, Nicolas. Rendez-vous en 3030 si d'ici là tout n'a pas explosé.
Et Thomas, puisqu'on parle d'explosion, parlons de celle du jeu de société moderne. Pour en savoir plus, écoutons Yannick Battista, ludothécaire à côté de Bordeaux, dans une commune qui porte le nom de Camblane. Et sa ludothèque s'appelle la Coccinelle.
Les premiers jeux entre guillemets modernes datent de la fin des années 70, en fait, années 80, 90. Et au fur et à mesure, chaque année, en fait, a amené, y a eu un jeu notable, un ou deux jeux, trois jeux, quatre jeux, et puis après, c'est l'avalanche jusqu'à arriver maintenant. Alors, il n'y a peut-être pas 1000 jeux modernes qui sortent par an, mais. Parce que je pense que dans les 1000 jeux qui sortent par an, il y a aussi des refontes du Monopoly et de tout ça. Mais ça fait quand même énormément, ça fait même peut-être trop, justement, trop de jeux qui sortent. Ça a commencé, avec des jeux comme Les Colons de Catane, Carcassonne, le Jungle Speed aussi, qui sont des jeux qui ont eu leur histoire, qui sont au début, je pense qu'au départ, sont sortis dans des... et qui ont touché des cercles de passionnés, et puis vu que de toute façon, quand les Colons de Catane sont sortis, il n'y avait pas tant que ça de jeux à se mettre sous la dent, les jeux ont été joués, rejoués, et du coup, du cercle de passionnés, ça a débordé.
Et oui, ça a débordé et ça a explosé même. Hein. Pour resituer l'histoire, rappelons-nous qu'au début des années 2000, c'est effectivement en Allemagne qu'un nouveau type de jeu de société apparaît.
Et ainsi arrive en France un petit lot de jeux allemands accompagnés de leur traduction française. Et comme nous le dit Yannick, hein, il s'agissait des Coulons de Catane, Carcassonne...
Oui, qui malgré son nom est bien un jeu inventé par Klaus-Jürgen Wrede, un Allemand.
Très bien dit. Et l'Allemagne, dès 78, crée le prix le plus prestigieux pour le jeu de société, le Spiel des Siens.
Mais tu le dis très bien aussi. Merci. Maxime. Et en français, on dirait « jeu de l'année ». Cette récompense a ensuite dépassé les frontières allemandes et un des pays les plus réceptifs, eh ben, ça a été la France.
La France, ouais.
Ouais. Ces jeux que l'on ne trouvait que difficilement ont commencé à être vendus dans des boutiques spécialisées, dont les premières étaient les boutiques Descartes. Et Descartes, c'est un éditeur de jeux né en 1977 qui avait ouvert à l'époque 5 boutiques en France. Et ces boutiques ont permis la popularisation du jeu de société dit moderne.
Et après Descartes, d'autres boutiques ont ensuite émergé au fur et à mesure que le jeu de société moderne devenait de plus en plus populaire. Les gens ont ressenti vraiment un besoin de jouer ensemble, de partager les moments autour d'une table. Et au même moment, en 2006, la console Wii séduisait les familles et remettait un peu au goût du jour le plaisir de partager, là pour le coup, une expérience vidéoludique commune. Hein. Et cette expérience s'est prolongée à travers le jeu de société. Et ce qui apparaissait avant comme un loisir vieillot et un peu démodé, s'est avéré une source de création de plus en plus foisonnante.
Oui, si tu me permets ce bon jeu de mots, Maxime, les Français prennent le train en marche.
Ah bien, pas mal.
Et tu sauras pourquoi. En 2002, grâce à une société d'édition de jeux, Days of Wonder, et malgré son nom américain, et le fait qu'elle soit au début basée à San Francisco, ce qui est quand même top, cet éditeur assoit sa marque de fabrique en proposant des jeux au matériel de qualité. L'un de ces jeux, justement, Les Aventuriers du Rail, trouve même les faveurs des Allemands qui lui accordent en 2004 le fameux
Spiel des Siens.
Comme tu le dis bien.
Merci. Et les Français découvrent ensuite, ils peuvent faire jeu égal avec des Allemands. Et ils ont aussi des éditeurs et des créateurs de talent. Et les jeux français commencent à proposer des jeux plus immersifs, avec un matériel qui se veut plus thématique et des thèmes un peu plus chaleureux. C'est la bascule dont nous parle Nicolas Soubiès.
La bascule, je l'ai sentie ces dernières années, on va dire de 5 à 8 années, où on voit qu'aujourd'hui, les éditeurs parlent de plus en plus aux novices, aux familles, aux gens moins du milieu finalement. Il n'y a pas plus de jeux d'ambiance, il y en a, je pense, toujours autant. Je pense que les jeux dits un peu plus sérieux sont de plus en plus accessibles parce que le temps déjà est là, on a réduit les temps de jeu. Un jeu qui à l'époque faisait 2 heures, aujourd'hui on arrive à 45, une heure. Donc les gens, ça leur plaît aussi quand ils viennent ici parce que en jouant une heure, ils vont pouvoir faire 2-3 jeux.
Ouais, on constate que le jeu de société a donc évolué en parallèle de notre société, c'est-à-dire que dans celle-ci, tout va de plus en plus vite, tout est immédiat. Les messages instantanés, les caisses au supermarché, Internet. Un grand nombre de nouveaux joueurs veulent également plus d'immédiateté dans le jeu.
Et c'est aussi en rapport avec cette génération zapping qui vient du cela. On veut jouer à beaucoup de choses et très vite. Alors qu'avant, les jeux nécessitaient un investissement plus long, on les usait plus longtemps, on jouait plus. Et les éditeurs comprennent cette demande de toujours plus rapide et y répondent du coup de plus en plus.
Donc en toute logique, les règles de jeu auparavant si complexes à appréhender se simplifient, mais cela ne veut pas dire non plus que les jeux deviennent moins profonds. Il s'agit en fait plus d'une véritable démocratisation du jeu, et les boutiques spécialisées ne sont alors plus les seules à proposer ce loisir. Rodolphe Chambonneau, gérant du restaurant jeu Food and the Game à Bordeaux, nous explique cela.
Ce qui veut dire qu'il y a quand même un frémissement qui est très net, même si je pense que les responsables produits éditoriaux des grandes enseignes ne sont pas encore au fait du tout de l'émergence de ce loisir-là. Il n'y a qu'à voir les rayons de tout ce qui est grande récré, etc. On voit de plus en plus de jeux qu'avant on considérait comme notre chasse gardée.
Et les ludothèques également se saisissent de cet outil. Auparavant créé pour mutualiser les jouets entre les enfants, les étagères de jeux de société, on se rend compte qu'elles grossissent à vue d'œil. Elles voient dans cet essor un moyen d'attirer un nouveau public et également de susciter de nouvelles vocations. Et les propositions se multiplient encore et encore.
Et c'est que le début.
D'accord.
Parce que les propositions se feront par divers faisceaux qui existent déjà. On a d'un côté les ludothèques municipales, associatives, qui se montent un peu partout, que ce soit dans le rural, que ce soit dans les grandes villes. On a des propositions de type bar à jeux aussi, les boutiques qui ont besoin aussi de s'implanter un peu plus. On voit aussi maintenant la distribution, la grande distribution qui commence à se spécialiser. Donc il y a des enseignes qui se sont spécialisés. Donc déjà, on a une proposition du jeu de société de manière étendue.
Ouais, ça c'est ce que nous verrons dans la deuxième émission consacrée au lieu où l'on joue et que nous a animé avec beaucoup de talent Nicolas Soubiès.
Oui, mais dis-moi Thomas, tout cela a l'air bien idyllique, hein. Pour un peu on se croirait dans le monde des bisounours en fait.
Eh bien, pas tant que ça Maxime, car toute médaille a son revers et le jeu de société ne fait pas exception à la règle. Qui mieux que Fanny Boucard, vendeuse en boutique spécialisée et ancienne élève de notre promo, pour nous en parler en premier.
C'est vrai que là, depuis quelques années, il y a énormément de jeux qui... Et même pour les jeux en eux-mêmes, c'est hyper dur de faire leur trou, quoi, hein, parce qu'il faut... Il faut pas être éclipsé par un autre jeu qui va sortir 2 mois après. Enfin, il faut réussir à perdurer dans la longueur, enfin dans le temps.
On retrouve ici donc plusieurs problématiques. Hein, le problème de la surproduction hein, des jeux qui est maintenant de 1000 par an.
Et oui, là où il ne sortait que 500 jeux, je crois, en 2003 près. Hein, d'ailleurs, si je prends ma petite calculette et que je divise 1000... qui est le nombre de sorties par an, par 360, qui est le nombre de jours dans l'année, hein, j'obtiens presque 3 jeux sortis par jour. Alors on comprend mieux pourquoi les boutiques sont perdues et que les jeux se retrouvent noyés dans la masse.
Et que contrairement à avant, où on jouait, ben, comme on l'a dit, régulièrement au même jeu, que l'on usait, on retrouve cette génération zapping dont on parlait précédemment, hein, qui passe d'un jeu à un autre très rapidement. Et les ludothèques, comme les boutiques de jeux, doivent également faire face à cette surproduction.
Exactement. Comment savoir si le jeu que l'on met en avant dans notre structure ludothèque est un feu de paille ou s'il apporte vraiment quelque chose aux joueurs en termes de sensations ludiques ? Cela dit, on peut imaginer que cette situation ne va pas durer. C'est d'ailleurs ce qu'en pense Yannick Battista, notre ludothécaire de la Coccinelle que nous retrouvons.
Je me dis que ça va peut-être faire comme dans le milieu de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la bulle spéculative va peut-être un peu exploser et du coup, il va y avoir... très logiquement des pertes en fait. Il va y avoir des gens qui vont mettre la clé sous la porte parce que on peut pas, enfin le public n'est pas, même s'il y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux de société, le public n'est pas non plus extensible. Mais bon, je le souhaite pas et puis ça aurait été au moins, comme tout âge d'or, ça aurait été au moins intéressant d'avoir cette production prolifique de jeux de société. Peut-être qu'aussi ça permettra de retenir ceux qui sont vraiment intéressants, ceux qui apportent vraiment quelque chose.
Et en effet, seul le temps nous le dira. Des 1000 jeux sortis cette année, combien perdureront et combien marqueront leur époque, comme l'ont fait à l'époque les Aventuriers du Rail, les Colons de Catane ou bien encore Carcassonne. Et cette surproduction a-t-elle vraiment du sens
en fait ? Ouais, c'est en effet la question que l'on est en droit de se poser, Maxime. On l'a vu en début d'émission, ce milieu en pleine expansion attire également des acteurs financiers importants. Ouais. Rodolphe Chambonneau nous en parlait lors de notre rencontre dans son restaurant jeu. Mais vous verrez qu'il apporte cependant une petite touche d'espoir, car ça reste malgré tout un loisir essentiellement lié à la passion.
D'une manière générale, dans le monde du jeu, évidemment, il y a quelques cyniques qui surfent sur la vague, qui essaient de faire de l'argent parce qu'ils voient que ça le vend dans le dos, etc. Il y en a dans tous les domaines, il y en a. Donc c'est pas exclusif à notre milieu, très loin s'en faut. Mais c'est aussi un domaine où on rencontre énormément de passionnés très sincères. Je fais certainement de l'angélisme ou du bisounours, hein, vous choisirez le mot qui vous convient, mais je trouve que c'est vraiment... ça a ceci de formidable que je pense qu'à un certain point, on est tous conscients qu'on a un rôle à jouer dans les fameux 10 ans à venir qu'on évoquait tout à l'heure. Les 10 ans à venir pour notre société, et qu'on a entre les mains un loisir qui est remarquable à plus d'un titre, et qu'on est tous présents à des échelles différentes dans la propagation de ce virus-là, et le ludothécaire occupe une place extrêmement importante dans cette logique-là.
Et nous traiterons des ludothèques dans la troisième émission, mais c'est évidemment un milieu de passionnés, qu'ils soient tenanciers de bar ou de restaurants jeu, gérants, vendeurs en boutique spécialisée ou bien encore ludothécaires. Il faut savoir que la ludothèque apporte également un autre type de jeu et offre un lieu particulier pour permettre à l'enfant de jouer et aux parents de les accompagner dans le jeu en général.
Et oui, car n'oublions pas que le jeu est le travail de l'enfant et qu'il faut lui permettre d'exercer celui-ci dans les meilleures conditions possibles.
Et c'est le moment de vous présenter une petite pastille ludique.
Miam miam, Maxime.
Et Thomas, tu vas pouvoir nous présenter ce jeu dont nous avons parlé tout à l'heure, Les Aventuriers du Rail.
Mais avec plaisir, ouais, c'est un jeu qui remplit parfaitement son rôle de rassembler toutes les générations autour de la table. Il est à la fois simple et stratégique, avec cette petite dose de hasard qui fait tout le sel des jeux familiaux quand elle est suffisamment bien dosée.
Ouais.
Un matériel de toute beauté, avec ses petits wagons en plastique, tout est réuni pour qu'il attire les enfants, les parents et même les grands-parents.
D'accord, ça a l'air bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans ce jeu, Thomas ?
Alors, Les Aventuriers du Rail, Maxime, dans sa première déclinaison consacrée aux USA, propose justement de créer un réseau de chemins de fer sur un grand plateau représentant la carte des États-Unis. Sur cette carte, des tronçons de voies de différentes couleurs et de différentes longueurs relient de nombreuses villes entre elles. Pour prendre possession de ces tronçons, il vous faudra poser vos wagons à votre couleur en défaussant suffisamment de cartes de la couleur du tronçon.
Et ces cartes, tu peux nous expliquer comment on les a ?
C'est là toute la simplicité du jeu. À son tour, il n'y a que deux actions à faire. On peut piocher deux cartes parmi un marché face visible de 5 cartes. Ces cartes représentent des wagons de différentes couleurs et ces couleurs correspondent aux différentes couleurs de tronçons sur le plateau.
Sur le plateau.
Tu me suis ?
Oui.
Ok. Ainsi, pour prendre possession d'un tronçon de couleur jaune et d'une longueur de 3, je devrais défausser 3 cartes représentant des wagons de couleur jaune.
Et pour la deuxième action ?
Elle découle de la première. Si je ne prends pas de cartes, je peux poser mes wagons pour prendre possession d'un tronçon bien particulier.
Et pourquoi je prendrais plutôt ce tronçon-là et pas un autre ?
Ah, bonne question. Parce qu'au début du jeu, tu auras reçu des cartes objectifs.
Ah, d'accord.
Et oui, qui t'indiqueront des villes bien précises à relier. En cas de réussite de ces objectifs, tu marqueras le nombre de points qui figurent sur la carte.
Mmh.
Les destinations peuvent être proches, mais des fois, elles peuvent être sacrément éloignées. Il va donc bien falloir surveiller par quel chemin tronçon tu souhaites passer, repérer les couleurs qu'il te faut, collecter, mais aussi surveiller ce que collectent les autres pour être sûr qu'on ne te prendra pas le tronçon.
Pas te voler le tronçon.
Et ouais, que tu convoites si tu attends trop longtemps. Donc c'est tendu comme il faut, avec toujours une légère incertitude et des victoires au finish assez savoureuses. D'ailleurs, ce n'est qu'à la fin, quand un joueur pose ses derniers wagons, que l'on révèle les cartes destination de chacun et qu'on fait le calcul des scores. Comme de coutume, on va pas faire très original, c'est celui qui a le score le plus élevé qui l'emporte.
Et ça a l'air en effet d'un bon mix entre plein de choses qui font le jeu société moderne.
Ben oui, son succès a été tel qu'il se décline maintenant en plein de boîtes proposant des cartes de pays différents. Alors la France, l'Inde, l'Allemagne, l'Europe, la Suisse, la Scandinavie, j'en oublie un paquet. Par contre, quand des championnats du monde ont lieu, ils se déroulent toujours sur la carte des États-Unis et c'est celle que nous conseillons pour commencer.
Et maintenant, après un jeu d'un éditeur français qui a été créé par un auteur américain, Alan Hermoun, et il a obtenu le Spiel des Sierras en 2004.
Comme tu le dis bien, Maxime.
Merci. Et passons à un jeu maintenant franco-américain, qui a été créé par un auteur français, et qui a également obtenu ce prix.
Oui, tu veux parler de Bruno Catala.
C'est
un ancien ingénieur reconverti en auteur de jeu, qui possède une imagination débordante et qui fait partie des rares auteurs de jeux capables de vivre de son métier.
C'est exact, et sa production ludique est hallucinante. Et c'est avec King Domino en 2017, un jeu basé sur le principe ancestral des dominos, qu'il a remporté ce prix.
Oui, l'éditeur franco-américain dont on nous parlait est Blue Orange, et tu vas nous en expliquer les règles de ce King Domino.
Et donc, dans King Domino, c'est un jeu de pose de tuiles. Dans ce jeu, chaque joueur est un roi, et avec évidemment son château qui l'accompagne, qu'est-ce qu'un roi sans son château ? Et nous allons essayer de construire le plus beau royaume possible à l'aide de dominos.
Alors comment fait-on pour faire le plus beau royaume et gagner des points ?
Eh bien sur ces dominos, on va retrouver des paysages, comme des plaines, des lacs, des champs. Sur certains, on va retrouver une couronne qui va nous permettre de gagner des points. Si on lit plusieurs paysages entre eux, avec une ou plusieurs couronnes, on marque des points.
Ok, donc si je comprends bien, plus on a de dominos ayant le même paysage et qui sont en contact, et qu'il y a une ou plusieurs couronnes sur l'une d'elles, plus on gagne de points.
Voilà, c'est exactement ça.
Ok, et comment on obtient ces tuiles alors ? Certaines doivent valoir plus que d'autres, j'imagine.
Oui, au début d'un tour, on pose autant de tuiles qu'il y a de joueurs. Les tuiles sont numérotées de 1 à 48, plus la tuile a une valeur haute, plus elle est forte. On retourne donc les tuiles, et le premier joueur va mettre son roi sur l'une des tuiles qui l'intéresse. Et le joueur suivant va faire de même. Ainsi de suite, jusqu'au quatrième joueur qui n'aura pas d'autre choix que de poser son roi sur la seule tuile encore disponible.
Oui, alors maintenant on place les dominos autour de notre château, c'est ça ?
Mais non, pas encore. Ah. D'abord, on remet les tuiles sur la table.
Mm-hmm.
Le joueur qui au tour précédent a pris la tuile qui avait la plus petite valeur, choisit en premier la prochaine tuile. Une fois qu'il a choisi, il place la tuile choisie au premier tour autour de son château. Le procédé se répète jusqu'à la fin de partie.
Ok, et comment la partie se termine justement alors ?
Eh bien, une fois qu'il n'y a plus de dominos, on compte alors les points, et le joueur ayant le plus de points gagne la partie.
Et il paraît qu'il y a des suites à ce jeu, non ?
Oui, grâce à son succès, le jeu Queen Domino est sorti de l'année dernière et reprend les principes de King Domino en complexifiant le jeu et en le rendant plus stratégique. À l'heure où on parle, une extension qui sera combinable avec les deux jeux, King Domino et Queen Domino, va sortir. Et ça s'appellera King Domino Age of Giants.
Oh, encore de nombreuses découvertes à venir pour ce jeu qui réussit également son pari de mettre toutes les générations autour de la table. En plus, il y a toujours la satisfaction d'avoir créé son royaume. Même si ça n'est pas le plus efficace en termes de points, ça sera toujours le plus beau dans notre cœur.
Oui. Et merci donc de nous avoir écoutés. Merci à Charles Jouteux et à la radio Studio ZEF de nous permettre de vous faire découvrir ce loisir qui n'est pas qu'un loisir.
Oui, car dans notre société, le jeu a du sens, et vous le verrez dans les deux émissions à venir, il réserve encore bien des surprises. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la suite de ce voyage ludique, en compagnie de nos intervenants. Excellente journée à vous.
Et à bientôt.